Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, N comme nonsense, avec Antoine Anger et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, bienvenue au cœur de l'incohérence, de l'absurde et de la folie pour une nouvelle écoute d'une émission déjà diffusée en février 2019 consacrée au cinéma non-sensique et qui résonne étrangement avec les temps insensés que nous vivons à présent. Si le nonsense, ce périlleux équilibrisme entre terre-à-terre et merveilleux a fait les beaux jours de la littérature avec ses jeux de langage propulsant le lecteur dans un monde absurde et paradoxal dont le sens lui échappe, il a trouvé son équivalent dans le cinéma dès ses origines, provoquant chez le spectateur un sentiment d'étrangeté et de mystère dont il ne s'est jamais vraiment remis. Car s'il existe un instrument plus propre que tout autre à enregistrer et souligner le décalage immense qui existe entre l'homme et sa propre image, c'est bien le cinéma. Écrivait en 1957 dans son anthologie du nonsense, le surréaliste, grand critique et historien du cinéma qu'était Robert Benayoun. Celui-ci a étudié le cinéma nonsensique avec un livre qui a fait date, Les Dingues du Nonsense, de Lewis Carroll à Woody Allen, qui trouvait chez les grands burlesques américains, Laurel et Hardy, W.C. Fields et les Marx Brothers, mais aussi chez Tex Avery, Jerry Lewis ou les Monty Python, et donc Woody Allen, cette façon par le gag, cet atome non-sensique dont la fission provoque l'éclat de rire en champignon, d'explorer les failles et les limites de la raison commune. Restez à étudier en détail les dispositifs propres au cinéma qui provoquent ce vertige de l'esprit et à ouvrir une nouvelle voie, celle d'un nonsense à la française. C'est ce qu'a fait des pionniers Émile Cole, Georges Méliès et Jean Durand jusqu'à Quentin Dupieux aujourd'hui, en passant par Louise Buñuel, Luc Moulet et Bertrand Blier. Notre invité ce samedi dans Plan Large, Antoine Anger, auteur aux éditions Lobster d'un précieux essai Nonsense et cinéma. L'homme hante également les couloirs de l'Assemblée nationale pour y raconter en dessin, sous le pseudonyme de Cocopello, le quotidien des députés, c'est dire s'il s'y connaît en absurde. En fin d'émission, Mathieu Macheret nous fera chalouper sur le Satan Tango de Bellatar, enfin en DVD, plus de 25 ans après sa présentation à la Berlinale en 1994. Mais pour l'heure, retour aux sources.
Alice se dit en elle-même. Alice se dit en elle-même, je vais vous montrer un film. Un film pour les enfants. Peut-être. Peut-être si on se fie au titre. Pour ça, il faut fermer les yeux. Car sans cela, vous ne verrez rien du tout.
C'est l'adaptation géniale et tout à fait perturbante d'Alice au Pays des Merveilles par le surréaliste sarcastique, comme il s'appelait lui-même, le tchèque Jan Švankmajer. C'était son premier long-métrage en 1988. Pour bien voir, a dit Alice, il faut fermer les yeux. C'est ce qu'on entend pendant le générique de cette Alice. Avec ce paradoxe, on est d'ores et déjà dans le nonsense, Antoine Anger, c'est-à-dire avant tout un jeu sur le langage. C'est ce que vous racontez dans votre livre, c'est un jeu sur le langage qui produit du sens.
C'est exactement ça. On retrouve en fait chez les pères fondateurs du nonsense que sont Edward Lear et Lewis Carroll quelque chose avec un jeu sur les mots, et l'illustration vient appuyer ce jeu sur les mots. Donc en fait, les personnages sont créés à partir des mots. Et les mots ont un tel point que des personnages comme Humpty Dumpty, par exemple, vont essayer de monnayer les mots pour que ça arrive dans leur sens. On va utiliser de nombreux syllogismes et on va toujours accepter une autre raison. Et surtout, la principale qualité des nonsense, c'est de dire non, moi j'ai raison, mais dans mon sens, et pas forcément dans le sens de la raison commune.
Voilà, c'est le contrôle du langage qui compte, hein, ça on va le voir au fur et à mesure de cette émission. Mais il y a une origine, et c'est pour ça que c'est un genre probablement anglo-saxon au départ, ce sont les comptines, ce qu'on appelle les nursery rhymes, les comptines pour enfants, où ce qui compte avant tout, c'est les sonorités, c'est les rimes, plus que le sens propre. Et c'est là que le sens, un nouveau sens se crée.
C'est exactement ça en fait. Donc le nonsense est dérivé de base des nursery rhymes que nos amis britanniques affectionnent tout particulièrement. Nous, c'est vrai qu'on regarde ça avec nos yeux de français en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est totalement absurde, on n'y comprend rien. Mais eux, dès le plus jeune âge, effectivement, on arrive à avoir ces petits moments-là d'échange totalement absurde où c'est d'abord la sonorité des mots, c'est d'abord quelque chose de plaisant, c'est comme l'art pour l'art, c'est du nonsense pour faire du nonsense, tout simplement.
Alors, on va essayer de trouver des équivalents cinématographiques à ces jeux de langage, et on en a déjà beaucoup dans cette Alice de Jan Schwankmayer. Par exemple, dans l'Alice de Lewis Carroll, on passe à travers le miroir. Chez Schwankmayer, on passe à travers le tiroir. Alors, on a déjà un exemple de décalage de sens. Je sais pas comment ça se fait en tchèque, mais en français, ça tombe très bien. Miroir, tiroir, ça se ressemble, mais c'est pas exactement ça. Et ce principe de l'homophonie, c'est un grand principe nonsensique, le petit décalage qui crée un nouveau sens.
C'est ça. C'est que, en fait, Schwankmayer, ce qui est intéressant, c'est que là, il va nous plonger dans un état déjà semi-hypnotique, avec cette traversée dans un monde merveilleux. Donc là, ça se fait à travers le tiroir. Dans la Lysopée des merveilles, c'est d'abord par le terrier du lapin, et ensuite par la traversée du miroir. Donc miroir et tiroir qui s'assemblent. Je ne sais pas s'il a fait exprès, mais en tout cas, il y a quelques analogies comme ça. Penser qu'il y a un merveilleux non-sensique, un monde tout simplement de mathématiciens fous. Il faut se dire, ce n'est pas simplement de l'absurde, c'est un monde qui est ordonné avec ses propres règles. Et ça, c'est très très important.
C'est la logique poussée jusqu'au bout. Alors, ce que nous, on appelle l'absurde en français, faute de trouver un équivalent exactement, parce que vous le précisez bien dans votre essai, Antoine Anger, le nonsense, ce n'est pas le non-sens qu'on a en français. Et même l'absurde peine à rendre compte de quoi il s'agit.
Exactement. L'absurde, ce n'est pas, alors ce n'est pas simplement absurde, c'est que ce n'est pas n'importe quoi. On respecte dans le nonsense les règles de phrase, on respecte la syntaxe, on respecte un petit peu toutes les règles de grammaire. En revanche, on donne un autre sens. C'est un peu pareil que ce qui se passe dans le cinéma, c'est-à-dire que les réalisateurs qui se sont emparés de cet outil qui est le nonsense vont utiliser des moyens proprement cinématographiques et petit à petit dérivés vers quelque chose de totalement loufoque, de absurde. Nous, c'est ce qu'on appelle en France. Mais non, ce n'est pas simplement de l'absurde, c'est du nonsense.
Robert Benayoun, je l'ai cité tout à l'heure dans mon introduction, disait que le cinéma était par nature nonsensique, que le simple fait de prendre des images qui en soi sont arrêtées, donc déconstruire le réel pour le remettre en mouvement, était déjà une démarche nonsensique.
C'est totalement une démarche nonsensique. Quelle absurdité quand même dans ce monde de devoir décomposer le mouvement pour le recomposer ensuite. Donc on peut voir effectivement que le nonsense au cinéma, le cinéma est l'outil presque propre du nonsense qui va récupérer à la fois de la littérature, à la fois des images incohérentes, je pense notamment aux arts incohérents, et il va pouvoir transformer tout ça et puis lui donner une toute autre direction avec un facteur temps qui est tout à fait incroyable au niveau du nonsense, mais ça on verra peut-être un petit peu plus tard.
Alors quelques exemples d'incohérences.
Oh, Your Excellency, we've been expecting you. As chairwoman of the reception committee, I extend the good wishes of every man, woman and child of Fredonia.
Never mind that stuff. Take a card.
Card? What'll I do with the card?
You can keep it. I've got 51 left. Now what were you saying?
As chairwoman of the reception committee, I welcome you with open arms.
Is that so? How late do you stay open?
I've sponsored your appointment. Because I feel you are the most able statesman in all Fredonia.
Well, that covers a lot of ground. Say, you cover a lot of ground yourself. You better beat it. I hear they're going to tear you down and put up an office building where you're standing. You can leave in a taxi. If you can't get a taxi, you can leave in a huff. If that's too soon, you can leave in a minute and a half. You know you haven't stopped talking since I came here? You must have been vaccinated with a phonograph needle.
The future of Fredonia rests on you. Promise me you'll follow in the footsteps of my husband.
How do you like that? I haven't been on the job 5 minutes and already she's making advances to me. Not that I care, but where is your husband?
Why, he's dead.
I'll bet he's just using that as an excuse.
I was with him till the very end.
No wonder he passed away.
I held him in my arms and kissed him.
Oh, I see. Then it was murder. Will you marry me? Did he leave you any money? Answer the second question first.
He left me his entire fortune.
Is that so? Can't you see what I'm trying to tell you? I love you.
Oh, Your Excellency.
You're not so bad yourself.
L'abattage, un rien grivois de Groucho Marx. On est dans la soupe au canard. Il est accueilli par une présidente, comme ça, du comité d'accueil. Il sort un jeu de cartes. Il lui prenait une carte. Elle répond, mais que dois-je en faire? Peu importe, répond Groucho Marx. J'en ai encore 51. Ou encore, elle va lui dire, en tant que présidente, je vous reçois à bras ouverts. Mais vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Lui répond Groucho Marx. Robert Benayoun encore, qu'on ne va pas arrêter de citer. Je sens pendant cette émission, pour qui les Marx Brothers, c'était vraiment un cheval de bataille. Disait sur les Marx Brothers, chez eux, le gag est secondaire car c'est l'élan qui prime, l'improvisation est de règle et dans leur érotomanie acrobatique, c'est comme s'ils jouissaient l'un sur l'autre d'un pouvoir vibrationnel concentrique à la situation proposée. On sent la belle littérature surréaliste de Benayoun et encore concernant proprement Groucho Marx, il concilie l'agression délibérée à l'envol même de l'illogique. Or, vous l'avez dit tout à l'heure, Antoine Auger, ce qui est propre au personnage de Nancy, c'est pas qu'il est absurde, c'est-à-dire illogique, c'est qu'il a sa propre logique poussée jusqu'à l'absurde, le nonsense s'est créé une nouvelle méthode de pensée.
C'est un peu ça. Groucho Marx, c'est comme un ambassadeur du nonsense au cinéma. Là, on le voit dans cette réception tout à fait organisée. Il va totalement bouleverser la solennité de la réception à travers le langage et à travers ses mots. Ce qui le distingue un petit peu de son frère Harpo Marx, qui lui va tout bouleverser simplement avec des gestes. Quand vous présentez à Harpo Marx votre main, il va vous présenter son pied. Simplement parce qu'il ne comprend pas et c'est une logique totalement inversée. Chez Groucho Marx, lui, il va plus jouer sur le jeu de mots. Là, il va partir d'une particularité. Prenez une carte, on s'attend à un tour de magie. Quand on va lui demander « Et que dois-je en faire ?», lui va dire « Mais peu importe, j'en ai encore 51. » Et il va partir comme ça d'une particularité pour arriver vers une généralité. Et lui s'en amuse lui-même, mais il n'attend pas. On est très loin du trait d'esprit où on attend un retour de son auditoire. Non, l'important, c'est de pouvoir conserver la parole parce que les mots sont toujours très importants au sein du nonsense et de pouvoir comme ça continuer à parler, à s'exprimer quoi qu'il arrive sans attendre forcément que quelqu'un rigole de sa petite blague, de son petit jeu de mots. On n'a pas le temps. Il continue et il déblatère tout ça.
Oui, ce qui fait qu'on a l'impression parfois que le jeu de mots fait flop un peu, enfin il tombe à plat. C'est ce qu'on appelle le pun en anglais, qui est aussi un jeu encore une fois sur l'homophonie. Enfin en français on appellerait ça la paronomase. C'est-à-dire employer dans une même phrase des mots dont le son est à peu près semblable, mais qui ont un sens complètement différent. Vous donnez un exemple de ceci dans votre livre, Antoine Anger. C'est une scène d'Animal Crackers, l'explorateur en folie en français, où Chico Marx demande à Harpo une lampe torche. Alors ça va s'appeler flash en anglais, et lui va lui tendre tour à tour sa joue, un poisson, une suite de cartes, une flasque d'alcool, parce que en anglais ça donne flèche, fish, flush, flasque. Alors quand on est un spectateur français, on a quand même le plus grand mal à suivre ceci, puisque c'est un jeu de mots sur la langue anglaise, et si on ne maîtrise pas complètement la langue de Shakespeare, on est parfois un peu perdu, ce qui fait que les Marx Brothers sont parfois difficilement traduisibles en français.
Bien sûr, c'est pour ça aussi qu'il existe, je le pense, une veine nonsensique française qui a pu s'emparer de cet outil-là pour traduire un petit peu ces jeux de mots sur la langue. Effectivement, pour le public français, il est peut-être plus difficile d'appréhender peut-être des Laurel et Hardy, peut-être des Marx Brothers, peut-être des Jerry Lewis, puisque les mots sont très subtils et vont jouer sur la similitude entre tel ou tel terme. C'est une grande question au sein du nonsense. Est-ce qu'il est traduisible pour tout le monde dans chaque langage? Il faut voir si les mots se ressemblent et s'assemblent. Parfois, ça ne fonctionne pas. Parfois, du coup, lui-même, en fait, le nonsense trouve ses limites dans le langage. C'est ça qui est très paradoxal finalement.
Et on en trouvera, on en trouvera chez d'autres, et notamment à nouveau sur des expressions parfois prises au pied de la lettre.
Ladies and gentlemen, I give you the greatest bullfighter in all Mexico. And the little shrimp challenger, Señor Droopy from Guadalupe. The winner of this bullfight can have anything he wants in all Mexico. Bring on the bull!
On your mark, get set, go!
Hello, Mr. Bull. Let's you and me fight.
Le valeureux torero, c'est Droopy, évidemment, Señor Droopy de Tex Avery en 1949. Droopy, personnage non sensique s'il en est, le chien à la figure sinistre qui dit « You know what, I'm happy ». Vous savez quoi, je suis heureux. On parlait de difficultés de traduction, il y a un film qui est emblématique de ça, c'est « Symphonie argotique » de Tex Avery, où le récit est entièrement produit par des expressions de la langue anglaise, dont certaines sont transposables en français. Genre, il avait la police sur les talons, par exemple, et on voit un gangster avec un policier juché sur ses talons, et puis d'autres qui sont plus compliqués à traduire, par exemple Cocktail, où on va voir une queue de coq servie dans un verre. Le dessin animé a toujours été le meilleur support du nonsense, écrivait encore Robert Benayoun, et ça c'est quelque chose qui a été compris dès le début par le créateur du genre même du dessin animé, qui est Émile Cole, français, membre du groupe des Incohérents, justement, dont vous parliez tout à l'heure.
Exactement, Émile Cole, qui était membre du groupe des Incohérents, vous savez, ces personnes qui
Alphonse Allais, par exemple,
des bals incohérents où on commençait par le dessert et on finissait par l'entrée. Émile Cole, lui, il a la particularité d'avoir dessiné ces personnages très simplifiés qui ressemblent un petit peu aux personnages qu'on peut retrouver dans la littérature non sensique chez Édouard Lear quand il fait ses propres dessins pour illustrer ses poèmes, et chez Lewis Carroll, je ne parle pas des illustrations de Téniel, mais des illustrations que lui-même a fait pour la petite Alice quand il racontait ses histoires. Chez Émile Cole ou Tex Avery, on retrouve du coup la malléabilité des corps. On peut en faire n'importe quoi. S'il faut aller chercher quelque chose à l'autre bout de la pièce, le bras s'allonge. Quand on regarde une jolie fille, je pense au loup de Tex Avery, les yeux sortent des orbites comme pour dire ah ben voilà, je la vois, elle est là et j'ai envie de la voir. On a du coup une exagération totale des attitudes qui est un des excès en fait du nonsense, c'est que on a à la fois ce côté un peu terre à terre des personnages qui sont campés dans leur attitude, et finalement ils tirent un petit peu toutes les directions possibles, un petit peu comme quelque chose de fou, pour en créer une malléabilité, comme si c'était un peu de la pâte à modeler. On va tout exagérer et on va faire finalement un excès à la fois de gestes et à la fois d'attitude.
L'excès, qui est une dimension très importante du nonsense, mais aussi chez Tex Avery, il y a cette particularité, vous parliez du petit chaperon rouge avec le loup aux yeux exorbités, c'est aussi un film qui commence par une révolte des personnages. personnage contre le réalisateur, lui reprochant de raconter pour la énième fois de manière un peu naïve, candide, le petit chaperon rouge, et exigeant qu'il se passe autre chose. Et ce qui est très frappant dans les personnages de Tex Avery, c'est qu'ils ont conscience d'être des personnages de dessin animé. Ils vont sortir du cadre, enfin ils vont sortir de la pellicule s'ils courent trop vite. Ils vont s'adresser aux spectateurs, et puis on va avoir tous ces éléments que rajoute Tex Avery, par exemple ce fameux poil qui avait été dessiné sur la pellicule et qui a rendu fou des générations de projectionnistes. Alors ça ne dit rien maintenant, c'est un gars que ne peuvent pas comprendre les nouvelles générations avec les projecteurs numériques, mais avant, s'il y avait un poil dans la pellicule, le projectionniste devait souffler dessus pour l'enlever, et c'est finalement un des personnages du dessin animé lui-même qui enlève le poil, reprochant au projectionniste de ne pas faire son travail. Alors on pourrait parler de distanciation brechtienne, mais c'est un procédé proprement nonsensique, cette façon de dire « attention, vous êtes en train de regarder un film ».
Voilà, c'est un petit peu ça. C'est comme le premier extrait qu'on avait entendu avec la liste de Zwankmeyer, où du coup on se retrouve comme ça face à un film. On nous dit « attention, on va vous raconter une histoire ». Donc chez Edward Lear, c'est un peu le « there was », le « il était une fois ». Et puis finalement, on va casser un peu cette histoire en disant « attention, nous, on est, vous êtes que lecteur, vous êtes que spectateur, et vous êtes dans un monde qui est imaginaire ». Donc c'est toute la contrariété du merveilleux qui serait propre au nonsense, c'est qu'il existe une histoire, on vous déroule une histoire, et finalement on casse tout ça par le côté très terre-à-terre, en fait. Un petit peu comme... On pourra voir ça avec Quentin Dupieux, par exemple, quand dans son film Rubber, vous avez des groupes de personnages, et puis finalement tous ces personnages vont être empoisonnés par les acteurs eux-mêmes, vont tous décéder sur place, et les acteurs se disent « bon bah c'est bon, il n'y a plus de spectateurs, nous arrêtons de jouer ». Tout simplement. Et puis finalement on s'aperçoit qu'il en reste toujours un, et il faut continuer à jouer juste pour ce spectateur-là. Voilà.
Et votre voyage en Espagne, à propos?
Oh, très intéressant, mais...
Et quoi?
Nous avons dû rentrer plus tôt que prévu. Oui, dans les rues de Madrid, le matin, il y a une odeur absolument écœurante de... Excusez-moi, de nourriture. Vraiment impudique.
Que va devenir le monde dans 20 ans si la population continue de s'accroître dans les proportions actuelles? On se le demande.
Mais vous dites ça à quel propos?
Vous imaginez la quantité de produits toxiques que l'on rejette tous les jours dans les fleuves? Les insecticides, les détergents ou les résidus industriels?
Sans oublier les déchets corporels.
Bien sûr.
C'est bien simple. Nous sommes actuellement près de 4 milliards sur la Terre. Dans 20 ans, nous serons 7 milliards.
7 milliards?
Oui. Et quel poids de déchets corporels pensez-vous qu'un individu libère par jour?
Oh, mais je ne sais pas, moi. Une demi-livre, moi?
Comment beaucoup plus? Pensez que l'urine pèse plus que l'eau. Non, tout compris, je dirais au moins 3 livres. Multiplié par 4 milliards, ça fait 6 milliards de kilos par jour. Dans 20 ans, plus de 10 milliards de kilos.
10 millions de tonnes d'excréments par jour?
Ah, exactement.
Diable!
C'est inquiétant ce qui se passe.
Oui?
Combien de tonnes avez-vous dit?
Plus de 10 millions de tonnes par jour. Et ce sont des déchets extrêmement toxiques, dont l'action, bien entendu, est renforcée par la présence de produits chimiques. Amusez-vous à faire pipi dans votre aquarium tous les jours, et vous verrez.
Maman, j'ai très faim.
Voyons, Sophie, on ne dit pas ces mots-là à table, c'est très mal élevé.
Et comme vous vous êtes très bien élevé, chers auditeurs, vous écoutez France Culture, plan large sur le cinéma nonsensique avec Antoine Angers. On vient d'entendre un extrait du Fantôme de la Liberté de Luis Buñuel. Le cinéma a été un terrain de jeu très intéressant pour les surréalistes. Il y a eu, vous en parlez dans votre livre, Entr'acte de René Clair, et puis surtout donc les films français de Buñuel, L'âge d'or, Un chien andalou, son œil découpé au rasoir, icône totale du cinéma surréaliste, et puis plus tard... Le charme discret de la bourgeoisie ou ce fantôme de la liberté, on est là encore dans un principe, alors certes surréaliste, mais très nonsensique, qui consiste à inverser, renverser les conventions. On va parler d'excréments à table et on va se nourrir discrètement aux toilettes en fermant la porte à clé. C'est un principe donc du nonsense, inverser les univers pour en créer un nouveau.
C'est ça, c'est tout à fait la question du miroir qu'on retrouve chez Alice. Alice va traverser un miroir et puis finalement, dans ce nouvel univers, dans ce nouveau merveilleux, ce nouveau monde, elle va devoir, pour pouvoir avancer quelque part, reculer. Donc il y a une totale inversion des sens, des règles. Les règles sont toujours là, bien sûr, mais on va transformer une habitude en incongruité la plus totale, juste en changeant peut-être l'ordre des mots. C'est ce qui se passe dans ce film de Luz Buñuel, Le fantôme de la liberté, où on a une inversion qui provoque un certain pastiche du réel, et le nonsense aime s'amuser justement de toutes ces réalités, de ces discours qu'on peut toujours avoir à table sur le côté « Ah tiens, comment on va faire pour nourrir tout le monde ?» etc. Et là finalement, le nonsense, juste en changeant quelques mots, arrive à nous faire comprendre qu'il ne parle plus de nourriture, mais il parle simplement de déjection. Voilà.
Ce qui est très frappant et ce qui éloigne certainement le nonsense du fantastique, par exemple, c'est que tout le monde trouve ça normal. C'est-à-dire que quand Alice va rencontrer les diverses créatures du pays des merveilles, elle va réagir comme si tout était normal. Dans cette scène, on l'a peut-être perçu à un moment, mais on va passer de cette scène de salle à manger à une caserne où tout d'un coup ce sont des gradés qui posent des questions aux discoureurs et puis on va revenir. Enfin, le fait que le temps, l'espace, les incongruités soient bouleversées en permanence, personne ne s'en étonne dans le monde du nonsense.
Personne ne s'en étonne, tout simplement parce que ce n'est pas du fantastique, une irruption comme ça incongrue qui arriverait dans un nouveau monde. C'est un monde avec ses règles établies. C'est un monde, comme je disais, de mathématiciens fous où nous, spectateurs, nous devons nous faire à ces règles-là. Et c'est tout le travail qui a été fait par des écrivains comme Edouard Lear, Lewis Carroll, puis par les cinéastes qui se sont emparés du nonsense, c'est de dire attention, vous avez un nouveau monde face à vous, vous avez un nouveau merveilleux, et ce merveilleux-là ne va pas s'adapter à vous, car vous êtes inadapté à ce monde-là.
C'est la structure du rêve aussi qui est explorée là. On parle du fantôme de liberté, mais le charme de Discret de la bourgeoisie, ce sont des rêves emboîtés les uns dans les autres. Alice fonctionne sur ce même principe. Schwenkmayer l'a montré très bien. L'emboîtement successif par le montage dans une structure qui est celle du rêve.
Oui, c'est ça. C'est une structure qui est rêvée. C'est une plongée dans un état comme ça presque de sommeil où les distances n'ont plus lieu, où on ne sait pas vraiment où on est. Dans l'âge d'or de Buñuel, on va nous présenter une ville comme ça où on pense que c'est Rome. On nous dit qu'elle a été bâtie en 1930 alors que nous-mêmes, par nos connaissances, on sait bien sûr que Rome n'a pas été bâtie en cette année-là. On s'en retrouve totalement perturbé, sauf qu'on n'a même pas le temps de pouvoir digérer et de pouvoir réfléchir à ça, que Buñuel va passer totalement à autre chose. C'est un petit peu comme le flot des mots de Groucho Marx. C'est que il continue comme ça dans son idée, nous laissant même pas le temps d'apprécier la blague ou d'apprécier simplement le fait qu'on est passé dans un autre univers. Et c'est à nous de pouvoir nous adapter à ce groupe de personnages. Finalement, c'est le spectateur qui est inadapté pour ce monde-là.
Et pourtant, le nonsense, parfois, c'est aussi le réel.
La fin du chômage créerait des effets pervers de chômage. Dans les journaux à petites annonces, à la poste où on vendrait moins de timbres, à la police où il y aurait moins de délits, chez les chausseurs, les photographes et les photocopieurs. Allô ? Salut. Oui, d'accord pour qu'on branche le Greta sur le JIDE, mais pas sur le système SAGE. Le chef de Kral a dit à tous les chefs d'Alle, c'est plus simple. Ah, pour les oreillons d'âne, oui, c'est fini, ça va bien, ça va bien. Ah, surtout, envoyez le nouveau Rhum au Payot et le Rodef au Goa. Merci, exécution. Et puis le syndicat des chômeurs gueule. Ils disent que nous masquons la crise derrière un effort ponctuel. C'est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, ils ont peur de perdre tous leurs membres.
Mais enfin, monsieur, regardez. Je suis pas prête d'en finir.
Oui, je sais, ils viennent de Stein, de Deuil, de 15 km d'ici pour pointer ici avec une fausse adresse. Le téléphone arabe marche vite, hein, c'est le cas de le dire. Ben, ils sont tellement sûrs de trouver du boulot. Puis si ça continue à cause de vous, ils vont être servis.
Bien, monsieur le chef d'agence, je prendrai toutes vos remarques en considération.
Mademoiselle Duru. Mademoiselle Duru. Vous êtes notre meilleur prospecteur placier. Il faut que vous me trouviez un job pour ce monsieur. 50 ans, pas de diplôme, qualification, ouais, pas très futée, mais il s'appelle monsieur Chômeur. Et s'il vient pointer, et si toute l'agence va rigoler, et il faut un petit peu de sérieux chez moi.
Il faudra un peu de sérieux dans cette émission de la nécessité du chômage de masse expliquée par Luc Moulet. C'était dans la Comédie du Travail dès 1988. La situation, évidemment, s'est un peu aggravée. Depuis, c'est donc un film où celui qu'on a entendu, c'est pas Luc Moulet, c'est quelqu'un qui parle presque comme lui. C'est très frappant. C'est Michel Delahaye, qui était son collègue au Cahier du Cinéma à l'époque où Éric Rohmer en était le rédacteur en chef, qui va expliquer, il est patron de la NPE, qu'il ne faut pas trop trouver de travail aux chômeurs, aux demandeurs d'emploi, pardon, hein, comme il faut dire, parce que sinon, ça va mettre au chômage tous les gens de la NPE, comme on appelait alors Pôle emploi. Luc Moulet, en particulier sans doute dans ses documentaires, est le plus nonsensique des cinéastes français des années 80, en tout cas jusqu'à nos jours. C'est quelqu'un, vous l'avez dit, c'est une question de logique folle, lui il va pousser cette logique jusqu'au bout à chaque fois.
C'est ça, c'est un peu le Luc Moulet et le pataphysicien du cinéma, c'est-à-dire qu'il a il va prendre quelque chose comme ça du quotidien et il va en tirer toutes les solutions imaginaires possibles et il va aller chercher toutes les directions possibles. C'est un peu l'esprit nonsensique par excellence. Je pense à ses films La cabale des oursins par exemple, où il va présenter les terrils sous différentes manières.
Vous dites comment, les terrils ou les terrils?
Alors je ne sais plus comment il le disait, les terrils ou les terrils.
Chez Luc Moulet, il faut dire terri.
Et ben je dirais terri pour ne pas se tromper, et il est très précis effectivement sur ce terme-là, où il va présenter les terris comme de véritables attractions touristiques, alors que pour certains habitants du Nord, on se dit mais pourquoi il y a ces énormités. Il pense aussi à, par exemple, dans Essai d'ouverture, mille et une façons d'ouvrir une bouteille de Coca-Cola. Dans Bar, il va essayer mille et une façons de pouvoir frauder dans le métro, quitte un moment à passer avec une armure de chevalier entre les barres pour éviter de se faire coincer. Donc c'est un petit peu ça, c'est on va aller chercher tout, il va surraisonner, il va partir dans un excès sur des choses qui sont totalement terre à terre, des choses du quotidien sur laquelle personne ne se pose véritablement de questions.
Est-ce que ce qui fait que le nonsense est une excellente façon de parler du quotidien? On disait que c'était une fuite hors du monde, c'est aussi souvent une loupe extraordinaire pour parler du monde. À la même époque, Bertrand Blier par exemple va filmer la France contemporaine comme le fait Luc Moulet. Il va filmer par exemple Buffet froid à la Défense en train de se construire, et dans un monde qui peut avoir l'air absurde et abstrait, il va quand même raconter ce qu'est la France des années 1970, sa laideur, son ennui. Le nonsense est pleinement ancré dans le réel.
Le nonsense est pleinement ancré dans le réel, donc c'est ça ses difficultés, son paradoxe, c'est qu'il engendre à la fois un merveilleux, comme on l'avait dit, et à la fois il traite de sujets qui peuvent être très réels, et il peut être utilisé un petit peu comme un pastiche du réel, comme un pastiche du texte de littéraire et de tout ce que nous on connaît culturellement. Vous parlez effectivement de Buffet froid, il va mettre ses personnages comme ça dans cette France-là, avec un cadre très froid finalement. On va se concentrer sur les échanges, on va penser un petit peu à ce qui se passe dans En attendant Godot de Samuel Beckett, où deux personnages attendent comme ça ce personnage de Godot sans savoir véritablement où est-ce que ce qu'ils vont aller, et on va se concentrer uniquement sur ces personnages, et sa caméra finalement le montre très très bien. Elle va toujours buter sur des murs en contre-plan, sur des portes, tout est fermé, on se concentre uniquement sur l'échange des personnages, ce qui fait finalement ressortir leur excès de sens ou leur excès de raisonnement.
Encore une facture, j'en peux plus de cette papyrasse administrative.
Otis, mon scribe, c'est lui qui scribe tout.
Immotez pas vous.
C'est une bonne situation, ça, scribe.
Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis « c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »
Pour ceux qui n'ont pas l'image, il faut préciser que la caméra s'attarde à ce moment-là sur les regards absolument médusés des gens qui écoutent Otis le scribe, alias Edouard Baer, discourir comme ça sans fin dans une logorée qui n'a finalement pour but que de conserver la parole. Celui qui a la parole a le pouvoir dans le monde du nonsense. C'est évidemment dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Antoine Anger.
C'est exactement ça. Nous, Edouard Baer est un peu le Tweedledum de notre bestiaire nonsensique, puisqu'il va essayer, comme dans La Lys au Pays des Merveilles, non pas de réciter la poésie la plus belle qu'il connaisse, mais la poésie la plus longue. C'est le poids des mots qui est toujours important. On reste à pouvoir conserver à tout prix la parole, quitte à développer son discours, et là on lui donne l'opportunité par cette question qui est posée par le druide Panoramix, et lui va pouvoir déclamer toute sa tirade sous les yeux médisés des autres qui se disent mais pourquoi, quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce qu'on arrête de lui faire conserver ses mots. Baer est très connu pour ses émissions à rallonge, je pense à l'émission, alors attendez, je l'avais noté, le centre de visionnage de l'émission Nulle part ailleurs sur la chaîne Canal Plus, dans le but de contribuer à son amélioration dans la mesure où il y aurait lieu de le faire. Voilà. C'est tout un programme. C'est l'idée du coup d'aller conserver la parole. C'est un excès de mots pour finalement un manque de sens, un manque de logique par rapport à la situation qui se passe sous leurs yeux. Dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, ils doivent bâtir finalement ce palais pour Cléopâtre. Et là, on s'attarde sur cette situation de scribe et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et les autres personnages ne savent pas vraiment pourquoi. Ils sont un peu pris aussi au dépourvu par cette irruption nonsensique qui arrive dans ce récit.
Ce qui fait que le personnage nonsensique n'est pas forcément un personnage très très sympathique. Ce sont des personnages très égoïstes qui cherchent toujours le moyen et par tous les moyens à se mettre en avant. C'est Groucho Marx, on en a parlé, c'est W.C. Fields. Encore une fois, c'est le langage comme arme.
Voilà, c'est ça. C'est que le pouvoir des mots est tel qu'il faut, c'est celui qui l'utilisera en premier, qui aura le pouvoir et qui pourra changer finalement le cours du récit. C'est ce qui se passe chez Édouard Lear, par exemple. On retrouve, tous les personnages sont créés à partir des mots. Et c'est une notion très très importante.
Et le pouvoir des mots est plus important que tout, mais c'est aussi, et c'est là qu'on arrive proprement au cinéma, même si on arrive à la fin de cette séquence consacrée au nonsense, c'est le pouvoir du langage cinématographique.
Well, I'm done for today, boss. We really have to talk about the palm tree.
Did you notice anyone come by while I was gone?
Those are flowers.
Yes. Victor, did you see anybody come by?
No. I hate to bother you about this, boss, but we really have to talk about the palm tree. We have a problem.
What is it?
It's kind of hard to explain. I don't know how it happened or why, but the palm tree is no longer a palm tree. No.
What are you talking about? What?
Unbelievable. That's why I wanted to show you.
How?
20 years of gardening. I've never seen this in my whole life. I can't get over it.
It's a pine tree now.
I know. It's crazy.
I know it's crazy, mais oui, c'est fou. Vous écoutez France Culture, plan large sur le nonsense au cinéma et cette voix avec un accent français qui n'a rien à envier à celui de Maurice Chevalier, c'est celle évidemment d'Éric Judor, Victor le jardinier dans Wrong de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux à qui vous consacrez la grande majorité de votre essai sur le nonsense au cinéma, Antoine Anger, parce que Quentin Dupieux, dès son premier, dès ses débuts, son film qui s'appelait comment son premier film ?
Son premier film s'appelait Non Film.
C'est déjà tout un programme. Et Rubber, dont vous parliez tout à l'heure avec son pneu serial killer, commençait par un monologue adressé à la caméra, faisant l'éloge du no reason, pas de raison, ou l'anti-raison. Enfin, on pourrait le traduire de façon différente. C'est quelqu'un dont le programme est dès le départ déclaré comme nonsensique.
Et
Antoine Anger.
C'est ça, il le dit lui-même, c'est que il a envie de faire ses films un petit peu comme un amateur et d'aller chercher une raison qui lui est propre. Là, dans cet extrait, on voit simplement la confusion entre Pine Tree et Palm Tree, donc on trompe
Paronomase encore.
On trompe à nouveau justement cette oreille, et le poids des mots est tel que finalement le Pine Tree, le sapin, se transforme en Palm Tree, en palmier.
Non, c'est le contraire, c'est le palmier qui s'est transformé en sapin, mais c'est vrai qu'on ne sait plus
où
on en est.
C'est le palmier qui se transforme en sapin, exactement, donc on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. C'est comme cet exemple des Marx avec le flash, le flush, flush et puis tous ces petits mots-là. On ne sait jamais où est-ce qu'on en est avec lui, et lui va jouer avec cette question de no reason, et il a bâti son cinéma sur ça. C'est-à-dire que tous ces personnages vont évoluer dans un univers qui est totalement nonsensique, où finalement par exemple dans Wrong, vous avez ce personnage de Dolph qui se fait enlever son chien par une société secrète qui enlève les chiens pour que les chiens manquent à leur maître. Voilà. Simplement pour que les maîtres puissent se dire « Ah tiens, moi j'aimais mon chien et puis là, il me manque terriblement. » C'est totalement absurde pour nous, et finalement, dans le monde où il évolue, c'est tout à fait logique de pouvoir faire ça. Et quand il donne l'explication, on se dit « Ah oui, tiens, on n'y avait pas pensé, mais c'est quand même fou, mais ça marche. »
Ce qui est très angoissant aussi dans le cinéma de Quentin Dupieux, et qui rejoint sans doute là encore les écrits de Lewis Carroll, c'est la quotidienneté. C'est-à-dire, on est vraiment dans l'inquiétante étrangeté du réel. Hein. C'est très freudien sa manière de le présenter. Il va filmer de plein pied des gens qui tiennent des discours complètement absurdes, mais pleinement ancrés dans leur réalité. Par exemple, un voisin en face qui va faire un jogging tous les matins, mais qui va nier férocement en faire jamais parce qu'il a un problème avec le jogging. Et cet échange-là va être cadré de manière... généralement, ce sont des très longs plans fixes qui nous montrent qu'il y a quand même quelque chose de très bizarre dans ce monde-là, mais qui est aussi le nôtre.
C'est ça, c'est que c'est un quotidien qui est affirmé avec ses propres règles. On a le personnage de Dolph, même s'il a été viré depuis très longtemps, qui se rend au travail. On a, il se lève toujours à la même heure, non pas à 7h59, mais à 7h60. Nous sommes au pays du nonsense. Il va effectivement rencontrer ses différents personnages. La vendeuse des pizzas, va y avoir ce voisin, effectivement, qui va partir dans un univers un petit peu vide, ce désert avec sa voiture, son jardinier qui est campé par Éric Judor, qu'on va retrouver dans nombre de ses autres films, qui va venir tous les jours pour finalement, on ne sait pas trop quoi faire, mais il va être là pour pouvoir entretenir le jardin et faire part des nombreuses incongruités. Et on va se fixer sur ces personnages du quotidien qui n'ont rien d'incroyable finalement, qui sont plutôt banals quand on y pense, on va un peu à la façon de Luc Moulet, aller tirer tout ce qu'on peut sortir de ces personnages-là et tout ce qu'on peut en faire et voir dans des réactions du quotidien qu'est-ce qu'on peut sortir comme incongruité au niveau du langage, au niveau de la forme des phrases. C'est des échanges très banals, et quand on tend l'oreille un petit peu plus, on se dit « Ah oui, tiens, il y a quelque chose de nonsensique. »
Et tout cela se fait parce qu'il y a un spectateur en face. Hein. Vous parliez tout à l'heure de cette séquence de Wrong Cops où on tue tout le monde, y compris le spectateur, donc le spectacle pourrait s'arrêter. Mais en fait, il continue parce qu'il y a encore un spectateur, et ce spectateur a des attentes. Alors, vous parliez d'Éric Judor qui traverse quasiment toute la filmographie filmographie de Quentin Dupieux, à partir de Steak, ce film où on transformait les corps avec la chirurgie esthétique. Et un des grands principes que vous avez relevé du cinéma nonsensique, c'est de décaler un acteur qu'on attend. Alors ça peut être Éric Judor, à qui on va mettre un bandeau sur l'œil et une grosse bosse tumorale sur le crâne, mais ça peut être comme chez Bertrand Blier, par exemple, grand spécialiste du jeu avec l'acteur, de prendre Alain Delon, le bel homme élégant, et d'en faire un pochetron abruti dans notre histoire. C'est le corps, là encore, qui se transforme, presque comme dans le dessin animé, finalement.
C'est le corps qui se transforme, c'est aussi jouer avec la persona de l'acteur, son masque de scène pour désorienter le spectateur. On avait parlé effectivement de différentes choses, les incongruités visuelles, les inversions comme chez Luce Buñuel, mais il y a aussi le côté qui est en dehors du film. Le spectateur va s'attendre à avoir tel ou tel masque de scène qui est présenté devant ses yeux. Alain Delon se bella effectivement, qu'on retrouve dans la piscine, etc. Et qui là va se retrouver dans le rôle d'un pochetron. Chez Quentin Dupieux, on retrouve Marilyn Manson, qui est une bête de scène, et qui va se retrouver dans le rôle d'un adolescent un petit peu attardé, très timide, et où finalement on va pas le reconnaître. La première fois que j'ai vu le film, on m'a dit qu'il y avait Marilyn Manson dedans, et je l'ai pas tout de suite reconnu. Il m'a fallu plusieurs dizaines de minutes avant de me dire: ah tiens, oui, c'est Marilyn Manson, mais c'est incroyable, je le reconnais pas du tout.
Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just yokes? Or perhaps we're just one of God's little jokes? Where sources of meaning of life? Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Self-replicating DNA. In this life, what is our fate? Is there a heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving, or is it too late? Well, tonight, here's the meaning of life. For millions, this life is a sad veil of tears, sitting round with nothing to say. What scientists say, we're just simply spiraling coils of self-replicating DNA. So just why are we here? And just what do we fear? Well, ce soir, for a change, it will all be made clear. For this is the meaning of life. C'est la sens de la vie. This is the meaning of life.
Merci Antoine Anger. Votre livre Nonsense et cinéma est publié par Lobster, une excellente maison dont on parle plus souvent ici pour leurs éditions de films rares et restaurés. L'éditeur nous propose ainsi ces jours-ci la magnifique copie restaurée donc d'Elle et lui, le chef-d'œuvre de Léo Macaré, première version, celle de 1939, la Love Affair d'Aaron Dune et Charles Boyer qui depuis longtemps était pratiquement invisible tant les copies survivantes été altérée. Merci donc Lobster. Et puis, comme vous êtes aussi bédéaste, Antoine Anger, je signale la parution prochaine, sous votre pseudonyme de Cocopello, de la bande dessinée, votre bande dessinée Palais Bourbon, les coulisses de l'Assemblée Nationale, coulisses que vous suivez et visitez depuis octobre 2017, histoire de comprendre peut-être le fonctionnement de l'institution qui semble parfois elle-même un rien non-sensique. C'est édité par Dargaud et ça sortira le 22 janvier. Ceci rappelé, il est temps de rejoindre un pays qui s'y connaît lui aussi en absurdie et autres non-sens. La Hongrie, sa plaine battue par le vent et la pluie et ses villes désertes. Bah oui, forcément, tout le monde est au café.
Kétszeret kevert. És egy csomag cigaretta. Deciről volt szó.
Bocsánat. Na, lóduljanak.
Bátorkodom emlékeztetni a cigarettára.
Bocsánat, elfelejtettem.
Megtudhatjuk, mi a javulatságos?
Semmi. Bocsánat.
Te hallod ezt? Mi ez? Valami gép? A lámpák? Valaki énekel? Ki meri dúdolni? Csend legyen!
C'est un film mythique, un monument du cinéma moderne, une œuvre monstre et un film monde. Jusqu'à présent, peu de spectateurs, à vrai dire, pouvaient se targuer de l'avoir vu en entier, ni même de l'avoir vu tout court. 2 ans de tournage, 2 ans de montage pour 7h20 de pluie, de boue, de murs décrépits et de toiles d'araignée qui auscultent des hommes et des femmes abîmés dans des paysages tout autant désolés par une météo apocalyptique. Présenté comme ça, évidemment, ça peut faire peur. Or, le tango de Satan, Shatan Tango dans le texte, est une splendeur noire, un voyage sans retour aux confins de la condition humaine, un de ces films dont on ne revient jamais, pour vous citer, Mathieu Macheret, c'était dans votre critique du Monde, et joie, bonheur, plus de 25 ans après sa présentation au Festival de Berlin, l'opus Magnus de Bélatar trouve enfin, depuis 10 jours, son chemin dans les salles françaises, dans une splendide restauration numérique supervisé par le poète ténébreux et inconsolé lui-même. Mieux vaut tard que jamais, si vous me permettez ce jeu de mots tout à fait lamentable, Mathieu.
Il faut bien rigoler un peu, ce qui n'est pas forcément évident dans Shatan Tango ou Satan Tango, allez, disons-le comme ça. N'empêche que peu de films méritent autant que celui-ci, le terme d'expérience. Hein, c'est une expérience à part entière. Le film ne peut pas être simplement regardé du coin de l'œil. Il faut s'y engouffrer, il faut plonger dans son cours labyrinthique, lancinant. D'abord parce que voilà, le film affiche une durée assez inhabituelle, vous l'avez dit, 7h30, quoique à l'ère du binge-watching, c'est peut-être pas aussi impressionnant. Mais aussi parce que chacun de ses plans ressemble à s'y méprendre, à ce que le poète Stéphane Mallarmé écrivait au sujet du tombeau d'Edgar. C'est un calme bloc ici bâchu d'un désastre obscur. Et ensuite, parce que cette œuvre est charnière dans le travail de Bélatar, c'est celle où il a pour la première fois lâché la bride à son écriture singulière, à la fois épique et sensorielle, fondée sur la longueur des prises, une écriture qui modèle dans un noir et blanc marmoréen une temporalité extensive et vénéneuse qui n'appartient qu'à lui. On a pu voir parfois en Bélatar une sorte d'héritier putatif d'un autre maître du temps, Andrei Tarkovski, et d'un cinéma de l'immanence qui semble calé comme ça sur l'horloge interne des choses et des êtres. Et au rang de ses influences, on peut citer aussi peut-être une autre figure tutélaire hongroise, celle de Miklós Jancsó, dont les plans séquences étourdissants de sophistication sont restés eux aussi dans la légende. Mais ce pourquoi Satan Tango est un film inouï réside évidemment aussi dans ce qu'il raconte. C'est une fresque monumentale, on l'a dit, qui prend un beau petit chapelet d'heures pour raconter rien moins que la fin du monde, ou plutôt la fin d'un monde, celle d'une ferme collectiviste devenue un cloaque sans nom et à travers elle d'un modèle soviétique qui, au début des années 90, s'effondre sur lui-même. On a affaire à un petit groupe de villageois amers et opiniâtres qui ourdissent ardemment des complots les uns contre les autres pour filer à l'anglaise avec la recette agricole de toute une année. Mais tous ont peur du retour de l'un des leurs, qui s'appelle Yirimias, ce qui veut dire Jérémie en hongrois. C'est déjà un nom de prophète et on hésite à savoir si celui-ci est en effet la résurrection du prophète de l'Ancien Testament, ou un agitateur anarchiste qui est prêt à poser des bombes, ou encore le diable en personne qui serait venu faire danser un tango infernal à toute cette mauvaise troupe. Et dans son sillon, les villageois, comme derrière un joueur de flûte de Hamelin, vont franchir le pas, sortir de cette ferme qui était leur cosmos et passer derrière le rideau des mythes collectivistes fatigués pour voir peut-être ceux qui s'y cachaient. Alors voilà, on a entendu, là c'est les villageois qui marchent, qui s'aventurent dans ce vaste monde. Donc Satan Tango raconte, on a dit, la fin d'un monde, mais aussi son lendemain, c'est-à-dire la gueule de bois qui suit la grande beuverie de l'apocalypse. Et ces villageois, souvent grotesques d'ivrognerie, s'en réservent une belle de beuverie dans une scène assez magnifique où ils dansent jusqu'à l'aube au son de l'accordéon. La splendeur du film est liée à plusieurs choses. D'abord au souffle grandiose de l'écriture de Bellatar, avec ce plan comme unité constitutive poussé dans les derniers retranchements de l'espace et du temps, porté souvent par de sublimes mouvements de caméra et suspendu aux épiphanies du réel comme aux performances des acteurs. Apocalyptique, son style l'est, il faut le dire, en diable, puisqu'il revient à l'étymologie même du terme qui recouvre la notion de révélation. L'apocalypse s'est révélé et la scène chez Bellatar se révèle progressivement par le travail de la durée. Énigmatique, opaque, le plan se donne petit à petit, se modèle sous nos yeux comme un bloc de glaise qui prendrait forme. Et de Limon, il est particulièrement question dans cette plaine perpétuellement plongée sous la pluie, puisque le sol boueux ne s'attache pas seulement au godillot des personnages, mais presque aux quatre coins de l'image qui semble elle-même modelée. Film de boue et de vent, Satan Tango regarde l'humanité sans idéalisme ni transcendance, depuis les tréfonds de ses turpitudes, précisément comme un gisement de boue sous l'angle d'un contact passionnel et viscéral avec la matière. On peut trouver le regard de Bellatar désespérément sombre, pourquoi pas nihiliste, et on peut le comprendre puisqu'il a vécu lui-même une sorte de fin de l'histoire, si on peut dire, mais sa générosité est ailleurs, notamment dans un récit en toile d'araignée qui déploie ses fils dans toutes les directions et ne cesse de tourner autour des mêmes événements perçus selon différents points de vue. Et sous son apparente austérité, le film regorge d'un romanesque dont le détail, l'arborescence, se révèle à mesure que se dissipe la brume du temps. Et derrière ses allures ténébreuses, son objet le plus précieux n'est autre que cette petite étincelle de vie souffrante que la caméra surprend dans cet abîme de la nature humaine où notre regard est souvent invité à plonger.
Ça va être tango. Magának egy komoly, megalapozott emberre van szüksége, nem egy ilyen Schmidtre.
Merci Mathieu Macheret. Satan Tango, Chatan Tango, selon les cas, est disponible dans sa version restaurée 4K en DVD et en Blu-ray. C'est chez Carlotta et croyez-nous, ne ratez ça pour rien au monde. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Élise Leu. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somanina, Séverine Cassard et Laurent Polleret. Un trio de choc. La semaine prochaine, Plan Large reviendra en direct et réfléchira avec ses invités sur les images que nous donne à voir le temps présent entre celles qu'on nous impose et celles qu'on nous refuse. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Toute une vie, présentée par Christine Bernard.
És én megint iskolaigazgató leszek. Elvinném magát a városba.